dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là.
Salut à toutes et tous, on se retrouve avec Anna aujourd'hui. Anna est anarchiste et militant antifasciste. Il a passé beaucoup de temps à étudier la théorie politique anarchiste et quelques-uns de ses auteurs, comme Errico Malatesta ou Murray Bookchin. Et aujourd'hui, il va nous parler du Rojava, la région rebelle autonome du nord de la Syrie, du Chiapas et ses municipalités autonomes dans le sud du Mexique. On va aussi parler de mise en œuvre de l'anarchisme, de création d'une contre-société dès maintenant, de guerre contre l'État. On va aussi demander à Noam Chomsky et Jean Birnbaum de nous éclairer sur ce que les militants et militantes doivent faire aujourd'hui et sur la révolution.
Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie.
Malheureusement, on n'a pas pris le temps de parler d'antifascisme et j'en suis un peu déçu. Mais l'épisode est déjà assez conséquent. Aujourd'hui, on est avec Anna, et la semaine prochaine, on retrouvera, une fois n'est pas coutume, un chercheur en sociologie dont les travaux ont porté sur les différentes façons de s'engager dans la vie publique. Ça apporte un éclairage original, vous verrez, et c'est passionnant. Vous écoutez l'épisode 4 du podcast Rue des Bons Enfants, c'est parti.
De régler radicalement le problème social. En suspens, dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radieux prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radieux prend place et le vieux monde est à la casse.
Salut Anna, comment ça va?
Salut Sam, écoute, ça va très bien, je suis content d'être là pour faire ce petit entretien.
Oui, moi aussi je suis content d'être là, donc bienvenue dans ce podcast Rue des Bons Enfants. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On s'est rencontrés en manif, tu nous as parlé à l'époque de ton site internet anarchive.ist, qui est une librairie anarchiste en ligne, et on a souvent pu échanger sur nos pratiques militantes, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, si on fait ci ou ça, quelles sont les conséquences, etc. Et puis on a échangé dès le début de ce projet de podcast, aussi bien sur le fond que la forme. Tout ça mis bout à bout fait que j'ai eu envie d'échanger avec toi et je te remercie d'avoir accepté. Alors, première question, est-ce que tu pourrais te présenter?
Ouais, alors du coup je m'appelle Anna, j'ai 27 ans. Je vais peut-être le préciser tout de suite, du coup je suis non-binaire. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur ce que c'est. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite, mais on verra un peu plus tard dans l'entretien que ça peut avoir son importance comme détail.
Le terme non-binaire désigne les personnes dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire, c'est-à-dire qu'elles ne se ressentent ni homme ni femme, estiment être entre les deux, ou un mélange des deux, ou aucun des deux.
Voilà, à part ça, aujourd'hui, je suis un habitué de la précarité, on va dire, et du chômage. Avant ça, j'ai eu un parcours scolaire assez classique. J'ai fait des études supérieures dans une grande ville, dans une filière qui était la publicité. Donc, je me destinais pas particulièrement au militantisme à la base, bien que je vienne d'une famille plutôt de gauche, mais pas forcément très engagée. Pendant mes études de publicité, en fait, j'ai quand même, mine de rien, été, présenté à de nouveaux concepts qui m'ont fait pas mal réfléchir, parce que voilà, j'ai quand même toujours bien aimé réfléchir au monde qui m'entoure. Et puis, en plus de ça, j'avais un job un petit peu particulier pour lequel je me formais dans le monde de la pub, qui s'appelle planeur stratégique, et qui consiste à essayer de comprendre un petit peu les grandes tendances sociales, culturelles, économiques dans la société, afin de, derrière, pouvoir conseiller les entreprises sur leur communication et leur stratégie de développement, en gros, quoi. Donc c'était quand même un job qui considérait, en gros, à faire le service après-vente du capitalisme, ou à le rendre plus plus sexy à une époque où il est de plus en plus critiqué, on va dire. Donc voilà, j'ai fait ces trois ans de formation, puis j'ai travaillé dans une grande agence de publicité, et ça m'a totalement vacciné, en fait. Hein. J'avais vraiment l'impression de travailler dans quelque chose qui allait contre mes valeurs, mais vraiment à l'opposé, quoi. Et puis ça a été aussi une période où, en plus, ça a coïncidé avec, on va dire, certains problèmes de santé mentale. C'est une époque où j'ai développé de l'anxiété sociale, en fait, de manière assez aiguë, et notamment au travail. Donc ça n'a pas été évident, et ça a notamment, au bout de 6 mois, fait que j'ai décidé de complètement quitter ce milieu-là, après avoir quand même eu, du coup, beaucoup d'heures, en fait, qui ne me servaient à rien dans le cadre de ces 6 mois dans cette agence, où on me donnait quasiment rien à faire, et où du coup, en fait, j'ai profité de ça pour lire énormément d'articles et de livres sur la politique, un peu en général. Donc ça a été vraiment une période de politisation accélérée pour moi, on va dire, parce que j'y connaissais quand même pas grand-chose avant. Et voilà, ça m'a amené à m'intéresser un peu à la politique, mais pas forcément dans le sens de la politique politicienne avec les élections, tout ça. Ce qui m'a d'abord amené à m'intéresser à la politique, ça a été les questions de changement climatique, je pense, comme beaucoup de gens. Et très vite, très très vite, quasiment dans le même mouvement, les questions sociales, évidemment, parce que j'ai tout de suite compris qu'en fait les deux étaient liés et qu'on ne pourrait pas les dissocier. Mais du coup, voilà, pendant longtemps, on va dire que mon approche de la politique et du militantisme était uniquement théorique. Donc je passais beaucoup de temps à lire, à écouter de conférences, à regarder des vidéos, des films, des documentaires, etc. On me renseignait un peu sur l'histoire de telle ou telle lutte, parce que j'avais envie de comprendre et de... comment dire, c'est aussi, voilà, j'avais envie de comprendre et de, avant de me lancer dedans, d'avoir suffisamment de billes pour me sentir
à l'aise.
À l'aise, voilà, à l'aise, et puis et même légitime d'une certaine manière, quoi, même si maintenant je suis un peu revenu de cette idée de légitimité pour s'exprimer, mais en tout cas à l'époque c'était un peu comme ça que je le voyais. Voilà, et du coup, après quelques mois, voire années, à chercher à militer, mais à pas pouvoir, pour des questions, encore une fois, d'anxiété sociale et aussi, on va pas se mentir, de la qualité des organisations qui étaient disponibles là où j'étais. Ben voilà, donc ça, c'est un petit peu mon parcours, on va dire, militant jusqu'à il y a 2 ans. Et puis, depuis, je me suis reposé dans une ville moyenne, on va dire, où j'ai trouvé une organisation... antifasciste, dans laquelle je me retrouve beaucoup plus que ce que j'avais pu faire avant. Et puis en plus de ça, j'ai eu aussi un accompagnement psychologique pour mon anxiété sociale, ce qui m'a permis de remettre un pied, en fait, dans la pratique directement. Et puis voilà, c'est tout simplement là où j'en suis aujourd'hui, même si du coup là on parle de tout ce qui est organisation avec des camarades. Mais même quand j'étais seul dans mon coin, je travaillais quand même en tant que militant. Comme tu l'as évoqué, j'ai créé un site qui permet de diffuser des livres en PDF qui traitent notamment d'anarchisme et d'antifascisme, un peu d'écologie aussi. Et voilà, donc je considère quand même que c'est du travail militant, même si c'est un truc que j'ai fait tout seul dans mon coin et qui m'a permis, du coup, à cette époque où j'avais pas les capacités sociales de rencontrer des gens et de travailler avec qui que ce soit, ça me permettait de quand même me sentir utile dans la lutte qui me semblait importante, quoi.
C'était pas uniquement pour te former toi, mais c'est aussi pour pouvoir partager par un biais où tu te sentais à l'aise, quoi.
Exactement, parce que de toute manière, ça c'est aussi peut-être quelque chose qui est très perso chez moi, mais pour apprendre, en fait, j'ai besoin d'expliquer aux autres. Donc voilà, je lis beaucoup de choses et ensuite j'essaye de restituer ce que j'ai compris, et c'est comme ça que ça rentre dans ma tête, et qu'en plus, du coup, ça permet de créer des discussions avec les gens avec qui j'en parle, et de toujours repousser un peu... repousser vers le haut la qualité de nos analyses, etc., quoi.
Et par rapport à ton rapport au travail, du coup, tu dis qu'en ce moment, tu es au chômage. Est-ce que finalement, c'est plus un concours de circonstances ou ça fait aussi partie de une conséquence de ton cheminement politique et que finalement, aujourd'hui, ça en devient une forme de. Enfin, c'est une conséquence, ouais, de conviction politique?
Alors, c'est une super bonne question. Pour le coup, j'ai envie de dire un peu des deux. Parce que il y a une très grande part de moi qui refuse le travail. Alors, je pense pour peut-être parce que j'ai eu des mauvaises expériences en tant que salarié. Peut-être parce que le salariat en tant que tel me révulse, hein, vraiment, il y a un peu de ça aussi. Mais oui, il y a quand même aussi une question de ma santé mentale m'empêche aussi de travailler. Parce que même si, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir travailler un minimum, en tout cas, travailler un minimum pour quelqu'un d'autre, sous les ordres de quelqu'un d'autre, ben, le truc, c'est que j'ai quand même du mal à trouver du travail, quoi. Parce qu'il faut quand même que je mange, j'aimerais bien pouvoir avoir un appart à moi, pas devoir me reposer sur mes proches. Et voilà, c'est quand même à la fois, oui, j'ai pas envie de travailler, mais en même temps, j'y suis obligé et j'ai du mal à trouver quelque chose que juste je peux supporter, en fait.
Du coup, c'est en partie lié à la forme que l'emploi prend aujourd'hui, que le salariat prend aujourd'hui, et du fait qu'il s'inscrit dans une logique de mise à profit de la force de travail pour le capital.
La force de travail, à différencier du travail, c'est la capacité à travailler d'un individu et qui, dans le système capitaliste, peut constituer une marchandise et donc s'échanger contre un salaire.
Ouais, tout à fait. Puis il y a aussi cette question d'exploitation qui, mine de rien, et c'est un peu. Ouais, en fait, à partir du moment où tu es politisé et que tu comprends ce que c'est le rapport capital-travail et que tu vois qu'en fait, ce que tu fais, c'est tous les jours quand tu travailles, c'est ben, concrètement ouais, travailler pour quelqu'un d'autre qui s'en fout de toi, qui la plupart du temps te méprise et qui, voilà, il est là pour faire de l'argent sur ton dos, toi, tu es remplaçable. Et en plus de ça, aujourd'hui, parce que ça encore, il y a une époque où l'exploitation était visible. Mais en plus de ça, maintenant, on nous demande de sourire en étant exploité et de, en plus, remercier le patron de nous donner cette superbe opportunité que d'avoir un CDD dégueulasse sous-payé. Enfin, bon, il y a aussi ce côté-là qui est quand même vraiment compliqué. Ça découle aussi du chômage de masse parce que du coup, le patronat se sent encore plus en capacité d'imposer sa volonté en fait aux travailleurs quoi. Et enfin bon, puis j'ai pas l'impression qu'on aille dans le bon sens avec toutes les réformes qui, notamment de l'assurance chômage qui arrivent. Voilà. En fait, je pense que tant qu'on reste dans l'analyse ou comment dire, dans l'idée que les gens qui nous dirigent cherchent à résoudre les problèmes, mais le font, mais s'y prennent mal. Déjà, on se trompe en fait. C'est faut, je pense, prendre conscience qu'ils nous mènent une guerre de classe contre nous, qui est une véritable guerre et qu'il faut bah, qu'on en prenne véritablement conscience. C'est pour ça que bon, je pars déjà peut-être un peu plus loin. C'est quelque chose qu'on abordera peut-être plus tard, mais dans les pratiques militantes, la plupart du temps, on est dans de la démonstration, dans de la performance en fait. On n'est pas, en fait, on joue à la lutte. On joue à la guerre contre l'État et contre le capital, mais ça reste un jeu en fait. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément suffisamment conscience que c'est une véritable guerre et que eux, ils y mettent les moyens et que nous, c'est pas en faisant des flash mobs qu'on va transformer quoi que ce soit, quoi.
Là, il y a plusieurs notions que tu as abordées quand tu parles de on est en guerre contre l'État. Est-ce que tu veux dire par là que avoir une approche de militantisme qui passe par les élections, qui passe par le lobbying auprès de la sphère politique, c'est pas forcément l'approche la plus pertinente?
Ah mais complètement, je pense que l'énergie que les militants à gauche et à l'extrême gauche même mettent dans les campagnes électorales et notamment la campagne présidentielle, c'est du gâchis. Enfin, je veux dire, si cette masse de personnes qui sait se mobiliser, qui a quand même des ressources matérielles, logistiques, etc., se mettait à utiliser cette énergie pour s'auto-organiser, pour construire ici et maintenant des espaces libérés de la domination, on irait quand même beaucoup plus vite et on pourrait se confronter à l'État et au capital de manière plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, on en est réduit à leur demander de faire ce qu'on veut. Les dominants ne nous lâcheront rien tant qu'ils n'auront pas peur de nous. C'est bien quelque chose qu'il faut comprendre. Et pour l'instant, à part c'était le 8 décembre, je crois, ou le 1er décembre, quand les gilets jaunes ont vraiment fait peur à Macron. Mais à part ça, je veux dire, imaginons même qu'ils aient réussi, ces gilets jaunes, à, je sais pas, rentrer dans l'Élysée, faire dégager Macron. Mais l'armée, dans les 3 jours, elle était là pour dégager tout le monde, maximum, et puis voilà, c'était fini. Le spectacle était fini. Moi, je crois pas trop que l'armée aurait laissé tranquillement. Bon, voilà. Ça, après, on n'en sait rien, c'est de la politique fiction, mais j'ai quand même pas l'impression qu'une simple insurrection comme ça, qui serait précédée par aucune préparation, serait capable d'aboutir, parce que on en reviendrait directement à reprendre les institutions telles qu'elles existent et pas à essayer de vivre dans des structures qui ne reproduisent pas les mêmes résultats que l'État, que le capital. Voilà. Il nous faut des institutions où la démocratie directe est la règle partout, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la consommation, que ce soit pour la production.
Alors, du coup, ce que tu me disais avant l'enregistrement, c'était que en même temps que la lutte contre l'État, il y a aussi une logique, et c'est ce que tu viens en partie de développer ici. Il faut aussi qu'on ait une logique de développement d'une contre-société et d'une culture qui nous correspond mieux, etc.
C'est ça. En fait, comment dire? Si on observe la civilisation occidentale et donc toutes ses caractéristiques aujourd'hui, c'est-à-dire différents systèmes de domination, la suprématie blanche, le patriarcat, l'État, le capitalisme, et puis bon, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, l'hétéronormativité notamment.
Le suprémacisme blanc, c'est une idéologie selon laquelle les individus blancs ou perçus comme tels sont supérieurs aux autres êtres humains, et qui peut se traduire de façon très variée dans l'emploi, la justice, l'éducation, le langage par exemple. Le patriarcat est un type d'organisation sociale où l'autorité est exercée par les hommes. L'hétéronormativité, c'est l'idée selon laquelle l'hétérosexualité est considérée comme la norme, c'est-à-dire normal, souhaitable, voire naturel et obligatoire.
Le problème, c'est que on n'a pas en fait d'espace qui nous permette de vivre directement ici et maintenant ce qu'on aimerait pouvoir voir advenir comme société. Et oui, en fait, moi je pense effectivement qu'on a besoin de construire des contre-institutions qui incarnent en fait le monde qu'on veut vivre. Et donc, non seulement c'est une réponse en fait une réponse stratégique au fait que on se bat contre des choses, contre des structures qui sont basées sur la verticalité, qui sont très hiérarchiques, très rigides, etc. En fait, la fluidité, la plus petite taille, etc., d'un collectif, on va dire, un peu plus auto-organisé, quoi, c'est pas juste une réponse qui viendrait en opposition à ce que fait l'État centralisé, etc. C'est aussi parce qu'on considère que c'est comme ça que, en fait, on va construire une société qui sera plus, qui sera basée sur les valeurs qu'on veut, quoi. C'est-à-dire, le partage, tout simplement une société communiste, quoi.
Ça passe par des initiatives multiples, vraiment de petite taille, qu'elles concernent l'éducation, la culture, l'agriculture. Quand tu parles
Exactement.
de contre-institution, tu parles pas simplement de structure, politique ou d'organisation sociale.
Alors ouais, c'est ça, exactement. Je pense effectivement qu'on a besoin d'organisations politiques qui sont là effectivement pour faire de la propagande et de l'analyse, etc., pour produire éventuellement de la théorie politique et de la propagande qui permettent de diffuser cette vision. Mais à côté de ça, on a surtout et avant tout besoin de répondre à nos besoins fondamentaux. En fait, on doit pouvoir nous émanciper, nous autonomiser de l'État et du capital dans tous les champs de la vie sociale, en fait. C'est-à-dire que on devrait pouvoir construire des contre-institutions dans lesquelles on va pouvoir se nourrir, dans lesquelles on va pouvoir faire garder les gosses, dans lesquelles on va pouvoir s'éduquer, dans lesquelles on va pouvoir construire les habitations dont on a besoin, voilà. Et ça, en fait, ça doit pas être fait de manière isolée, en mode, comme dans les années 70, t'avais l'exode urbain, où t'avais les bobos hippies qui allaient se mettre dans des petites communes et qui essayaient de faire vivre leur anarchie à 10, à 15, à 20. Ben, ça, c'est totalement illusoire, par contre. Si commune anarchiste il doit y avoir, elle doit être absolument mise en réseau et en fédération, en confédération, avec tout un tas d'autres contre-institutions qui vont travailler avec elle. Parce que faut pas croire que l'État et le capital vont nous laisser tranquillement faire nos petites contre-institutions, alors que concrètement, notre objectif à nous, c'est de construire ces contre-institutions qui nous permettent au prolétariat d'avoir un contre-pouvoir à opposer à l'État et au capital, en fait.
Mais ce que ces personnes pourraient dire sur la question du éco-hameau un peu autonome, c'est qu'elle pourrait dire, bah, en fait, il faut bien commencer quelque part. Et donc, même si elles sont incapables, de, dans un premier temps, de se fédérer ou de créer un écosystème plus large, de toute façon, il faut bien commencer quelque part, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Après, ce qui compte, justement, dans ce début, ça va être de faire hyper attention à la nature des relations sociales qui apparaissent dans ces structures-là. Si tu fais ta petite commune, ton éco-village, et que tu n'as pas directement une volonté de mettre en place radicalement les questions de démocratie directe, de consensus, de lutter contre tout ce qui va être domination sexuelle, sexiste, de lutter contre toutes les formes de racisme, etc., si tu n'es pas intransigeant sur ces choses-là, concrètement, c'est en fait laisser se reproduire la société de la domination, la civilisation de la domination. Et sur ces choses-là, on doit être intransigeant. Certes, on fait son petit truc dans son coin. Certes, ça rajoute des contraintes en plus. Mais il vaut mieux avancer peut-être un peu plus lentement, mais sur le bon chemin, que de speedrun le mauvais chemin, en fait.
Alors, on va écouter ensemble un extrait d'un livre de Noam Chomsky, « Comprendre le pouvoir » aux éditions Lux, dont la première édition est parue en 2002. C'est un livre qui compile des questions-réponses avec le public lors de conférences. J'en profite pour remercier Gab pour la lecture de l'extrait. Voici ce que Chomsky répond aux questions suivantes. Quelles sont les causes les plus importantes sur lesquelles nous devrions nous concentrer? Que doivent faire les militants aujourd'hui?
Tout peut être fait, tout, jusqu'à l'élimination de toutes les structures d'autorité et de répression. Ce sont des institutions humaines, elles peuvent donc être démantelées. Si vous me demandez ce qui est le plus important aujourd'hui, eh bien vous savez, ce n'est pas le genre de choses que vous décidez comme ça sur le champ. Ce sont des décisions que vous prenez au terme de discussions et d'une réflexion sérieuse au sein de groupes comme celui-ci, avec des personnes qui essayent vraiment de provoquer des changements. Il faut commencer au niveau des gens. On ne peut pas commencer en disant « Bon, on va renverser les multinationales. » Parce que là, tout de suite, c'est tout simplement hors de notre portée. Il faut commencer par se dire « Bon, voilà où en est le monde. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? Eh bien, on peut commencer par des choses qui vont faire mieux comprendre aux gens ce qu'est la véritable source du pouvoir et ce qu'ils peuvent réaliser s'ils se lancent dans l'activisme politique. Une fois qu'on a démêlé le vrai du faux, on monte des organisations. Voilà. On travaille aux choses qui en valent la peine. S'il s'agit de prendre en main votre communauté, faites-le. Si cela signifie gagner plus d'autonomie dans votre travail, faites-le. S'il s'agit d'organiser la solidarité, faites-le. S'il s'agit de s'occuper des sans-abri, faites-le. En ce qui concerne les affaires quotidiennes, prenez acte du fait que le système pénal vise de plus en plus les pauvres et les minorités, qui sont en train de devenir une population sous occupation militaire. Ça, c'est quelque chose sur quoi on peut agir facilement. Il suffit de changer l'opinion publique à ce sujet. Quand on met en place un système pénal civilisé plutôt qu'un autre, brutal et barbare, on ne touche pas au cœur du pouvoir privé. C'est donc un exemple de ce que l'on peut modifier. On peut aussi commencer par faire en sorte que nous arrêtions de torturer les gens dans le tiers-monde, que nous arrêtions de tuer des enfants à Cuba, que nous arrêtions les massacres au Timor oriental, que nous fassions prendre conscience aux Américains que les Palestiniens sont des êtres humains, et ainsi de suite. Donc, occupons-nous d'abord de ces choses-là. Pour d'autres, comme ce qui se passe au niveau de l'économie internationale, le terrain est beaucoup plus risqué, parce que là, des intérêts cruciaux pour des institutions autoritaires sont en jeu. À ce stade-là, vous devrez, comme nous le devrons tous à un moment ou l'autre, vous rendre à l'évidence que l'institution la plus totalitaire de l'histoire de l'homme, ou presque, c'est probablement une multinationale. C'est une institution gérée par un pouvoir central dans laquelle le schéma de l'autorité suit un ordre rigoureux du haut vers le bas. Le contrôle est aux mains des propriétaires et des investisseurs. Si vous êtes à l'intérieur de l'organisation, vous recevez des ordres du niveau supérieur et vous les faites suivre vers le niveau inférieur. Si vous êtes à l'extérieur, il n'existe qu'un faible contrôle populaire, qui de fait s'érode très vite. Donc pour répondre à votre question de savoir ce qu'il y a à faire, si un être humain sain d'esprit observe le monde, je ne pense pas qu'il puisse ne pas trouver matière à action. Faites un tour dans les rues, vous trouverez énormément de choses à faire. Alors vous vous y mettrez. Mais vous ne serez pas capable de vous en occuper seul. Si vous allez faire un tour dans la rue et dites « voilà ce qu'il faut faire », rien ne va se produire. D'un autre côté, si les gens s'organisent suffisamment pour agir ensemble, alors oui, là, vous pourrez réaliser des choses, et il n'y a aucune limite particulière à ce que nous pouvons réussir. C'est pour cela qu'il n'y a plus d'esclavage.
Bah écoute, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, j'ai quand même un peu voilà, cette impression de, que ça fait un peu poulet sans tête. Il n'y a pas, j'ai l'impression, de ligne directrice quand même dans ce qui est dit. C'est un peu regardez autour de vous et vous trouverez des choses à faire. Bon. Clairement, sur ça, il a raison, il y a vraiment du travail à faire. Après, il y aurait peut-être plusieurs nuances à apporter. Déjà, une chose importante, c'est aux personnes qui sont concernées par les luttes de les mener. Parce qu'il y a quand même souvent cette tendance, bah, on va dire, chez l'homme cis blanc de 40 ans, plutôt classe moyenne sup.
Un homme cis, et ça marche aussi pour femme cis, est une personne dont le genre ressenti correspond et le même que le genre assigné à sa naissance.
Qui, dès lors qu'il est militant, se croit légitime à parler à la place de tout le monde, en fait, de prendre de la place dans les luttes des femmes, dans les luttes des personnes racisées, etc. Donc ça, c'est quand même un truc qui me semble essentiel, de dire, ok... Tout est possible, mais concentre-toi peut-être sur les choses qui te touchent toi personnellement. Non seulement parce que bah, tu auras certainement plus d'énergie à y accorder parce que ça te touche personnellement, que c'est quelque chose voilà, dont tu as besoin et qui n'est pas là juste pour te faire gagner du crédit social, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis voilà, deuxième chose, après... On peut revenir à cette histoire de la stratégie des contre-pouvoirs qui permettrait un peu de donner une ligne directrice, pas forcément un plan à suivre à la lettre, mais une ligne directrice. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun dans son coin, ou chacun avec son petit groupe de potes militants et militantes, peut prendre des initiatives qui s'inscrivent dans un cadre commun, qui serait cette stratégie de construire un contre-pouvoir qui, à terme, nous permettrait de nous confronter directement avec l'État et le capital. Et effectivement, ça peut passer par des choses toutes petites au départ. Ça peut être juste une assemblée populaire de quartier, un syndicat dans une entreprise, une coopérative agricole, je ne sais pas. En fait, ça peut être vraiment tout un tas de choses, une coopérative de logement. Ce qui compte, c'est... que dans chacune de ces institutions, on est encore une fois un mode de fonctionnement en démocratie directe. Effectivement, il y a énormément de travail à faire. Il suffit de regarder autour de chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller voir forcément à l'autre bout du monde pour trouver de la misère ou des choses comme ça. On en trouve autour de chez nous. Et ben, en plus, en France, on est quand même sur une pente particulièrement flippante, je dirais, pour l'avenir de notre pays, et pas que du pays d'ailleurs, mais en tout cas, il y a peu de motifs d'espoir aujourd'hui en France, je trouve. Et commençons déjà effectivement par ici, essayer de trouver des moyens de retrouver de l'autonomie et de transformer un peu la vie, quoi.
Dans son propos, il différencie deux choses. Un militantisme qui ne touche pas aux intérêts du capital et un autre militantisme qui, lui, serait amené, au contraire, à toucher aux intérêts du capital. Il dit que dans un cas, c'est beaucoup plus facile de s'engager que dans l'autre. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Ah ouais, complètement. Complètement, parce que bah, déjà, parce qu'il y a tout un tas de préconditionnements, on va dire, psychologiques, où dès très jeunes, en fait, on nous apprend que voilà, la propriété privée, c'est quelque chose à respecter, quoi. On ne touche pas les affaires des autres. Voilà, donc ça a évidemment ses vertus quand il s'agit de propriété d'usage, mais quand c'est une question de propriété lucrative, c'est quand même on l'a quand même intégré comme étant un truc indépassable, quoi. Et deuxièmement, puis ben c'est tout simplement que les mouvements sociaux qui s'en prennent directement aux intérêts du capital sont réprimés de manière beaucoup plus forte. Donc effectivement, c'est beaucoup plus, c'est un pas plus grand que de s'engager dans un militantisme radical qui s'en prendrait directement aux intérêts du capital, que dans du militantisme, encore une fois, de la performance où on va faire un flash mob pour dire. S'il vous plaît, écoutez-nous, on est sympa, donnez-nous ce qu'on demande, quoi.
Dans ce que dit Noam Chomsky, il évoque en fait tout un tas de causes pour lesquelles on pourrait s'engager. Est-ce que tu penses que justement il y a des causes plus importantes que d'autres ? On entend souvent dire, par exemple, que la question climatique est la question la plus urgente, la plus importante en ce qu'elle conditionne notre survie. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Alors c'est une question sur laquelle j'ai quand même pas mal changé d'avis au fil des années. C'est vrai que, bah, comme je te disais, j'ai commencé à m'intéresser à la politique principalement par ce biais-là, jusqu'à même m'intéresser un peu pendant un certain temps aux questions d'effondrement, à la théorie de l'effondrement, qui est quand même bien à la mode aujourd'hui.
La théorie de l'effondrement, ou collapsologie, est un courant de pensée qui s'intéresse à l'hypothèse de l'effondrement de la civilisation industrielle, effondrement qui serait notamment lié au dérèglement climatique et à la perte de la biodiversité.
Et puis j'en suis quand même revenu parce que, comment dire, c'est pas là où on a, c'est pas encore sur la question de la lutte contre le changement climatique qu'on a le plus de personnes qui peuvent ressentir dans leur chair en fait le besoin de changer. Quand on parle de racisme et de patriarcat, on a des choses où bah, les femmes subissent dans leur corps la violence en fait, du patriarcat, les personnes racisées subissent la violence du suprémacisme blanc en France. On commence tout juste à ressentir en fait, les effets du changement climatique et je pense qu'on n'en est pas encore au point où ça fait tiquer les gens suffisamment pour qu'ils soient radicaux. Tout le monde, maintenant, effectivement, on est d'accord pour dire que tout le monde reconnaît que l'écologie, c'est important, mais entre une écologie à la Bruno Le Maire, à la Emmanuel Macron, et une écologie sociale, révolutionnaire, on est quand même sur deux choses complètement différentes. Et il y en a clairement une qui n'est absolument pas à la hauteur. L'écologie à la Macron, mais même j'irais même jusqu'à dire l'écologie à la Mélenchon, c'est pas suffisant. L'écologie à la Europe Écologie Les Verts, c'est pas suffisant.
Si je pousse ce raisonnement-là, est-ce que tu penses qu'une transformation de nos sociétés en profondeur passe nécessairement par un processus de type révolution ?
Oui et non. Alors, c'est-à-dire que. Alors c'est intéressant parce que j'ai trouvé une autre manière de parler en fait du changement social. C'est-à-dire que bah, pendant très souvent, il y avait le débat, t'as réforme d'un côté, révolution de l'autre, et les réformistes et les révolutionnaires se mettent sur la gueule, en gros, souvent à raison hein, d'ailleurs, parce qu'il y a eu, il y a quand même historiquement eu des trahisons et ce genre de choses bien sympathiques. Mais je trouve que concrètement, c'est pas vraiment comme ça qu'on peut analyser et décrire ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique militante. Et donc, pour mieux cerner et saisir ce qui se joue aujourd'hui, je trouve qu'on peut utiliser un autre cadre que réforme vs révolution, qui serait alors, en trois types en fait de méthodes de changement social. La première, ce serait ce que j'appellerais du coup l'apprivoisement, qui cherche à rendre le système actuel plus humain. On aurait dans un deuxième temps l'érosion, qui chercherait à démanteler progressivement le système actuel et à le remplacer par des alternatives, mais qui aurait quand même une portée révolutionnaire, quand bien même elle ne vise pas la rupture, qui est donc la troisième partie. La rupture, c'est essayer de rompre soudainement avec le système actuel. Et l'idée, du coup, ce serait pas forcément d'opposer érosion et rupture, parce que c'est deux choses en fait qui vont complètement ensemble. Pour qu'une rupture arrive à un moment donné, il faut qu'il y ait eu une bonne quantité d'érosion qui ait été faite sur le système en place, en fait. Il va pas juste lâcher d'un coup comme ça sans raison. Il aura été d'abord bien érodé en fait par des luttes sociales, par aussi le changement climatique qui effectivement va peut-être accélérer certaines choses en termes de réaction. Mais je trouve que voilà cette idée que on a effectivement d'un côté des gens qui sont là que pour apprivoiser le système et encore là moi j'ai mis le rendre plus humain, mais pour certains c'est même pas vraiment ça. Hein, c'est vraiment juste le rendre un peu moins dégueulasse, plus que plus humain, mais bon, voilà. Et puis, on va avoir du coup des gens qui. Et là-dedans, du coup, dans la partie apprivoisement, je mets quand même une très, très, très grande partie de la gauche. Je veux dire, France Insoumise incluse, NPA inclus. Ils cherchent pas dans leur méthode politique, c'est pas de construire ici et maintenant d'autres choses. Ils en sont quand même à essayer de faire avec le système, quoi. Et avec le capital et avec l'État notamment. Je veux dire, cette histoire de révolution citoyenne de Mélenchon, enfin, pour moi, c'est une arnaque intellectuelle, c'est une escroquerie. Et j'espère qu'au lieu de se vendre à gauche comme des grands révolutionnaires qui, voilà, mais qui, dans les faits, pratiquent l'apprivoisement, on devrait mieux dire explicitement que notre pratique de base en tant que révolutionnaire, c'est finalement l'érosion, chercher à éroder le système actuel en créant justement, encore une fois, ces contre-institutions, ces lieux émancipés du pouvoir de l'État et du capital, et en même temps faciliter et accueillir la rupture quand elle est possible. Parce que ça reste, pour moi, inévitable, je pense, au bout d'un moment, de passer par un moment de rupture, effectivement, où il y aura peut-être. Je ne parle pas forcément du grand soir, mais ça peut se jouer sur voilà, un mouvement social particulier qui va être un moment de rupture, mais il se sera forcément précédé par, on le voit là déjà, il se passe beaucoup d'érosion quand même, même si elle n'est pas du tout organisée, qu'elle a encore aujourd'hui un peu ni queue ni tête cette érosion à gauche. Mais voilà, on arrivera forcément à une rupture à un moment donné, mais pour ça, il faut organiser l'érosion mieux que ça.
Alors, ce que tu viens de dire, c'est une très bonne transition vers un autre extrait qu'on va écouter ensemble, cette fois du livre de Jacques Guillon, S'engager dans une société d'individus, aux éditions Armand Collin et paru en 2012. Il s'exprime sur l'imbrication entre, d'un côté, l'insignifiance des actions militantes du quotidien et, d'un autre côté, l'imprévisibilité de la révolution.
De même que personne ne peut dire que les élections ne servent à rien, personne ne peut dire de n'importe quelle action qu'elle ne sert à rien. Ce n'est que depuis la position de militant politique ou associatif institué, installé dans la pratique gestionnaire ou revendicative, que peut se décréter l'inutilité de l'éphémère ou s'émettre des accusations d'égoïsme. Sauf à vouloir sonder les reins et les cœurs, il faut d'ailleurs relever la vanité, pour qui s'intéresse à ce qui peut se passer dans l'espace public, d'une telle qualification. Les motivations peuvent être très diverses et chacun peut trouver intérêt ou plaisir à s'inscrire dans tel mouvement, à participer à la vie de telle association, à se lancer dans telle entreprise personnelle. Ce qui en revanche peut être affirmé, c'est que nul ne ressort comme avant de n'importe quelle expérience de lutte, qu'elle soit féministe, écologiste ou syndicale. Peuvent s'en trouver changés aussi bien le rapport aux autres que la vision du monde social Et en ce sens, toute participation vaut d'une manière ou l'autre politisation. Quant à la minceur de l'action ou à son caractère trop singulier, nul ne peut, a priori, en apprécier tous les effets. On sait que certaines actions très isolées peuvent se révéler ex post bien lourdes de conséquences sociales. Jean Birnbaum écrit, à propos de la révolution de jasmin en Tunisie, « Si, avec le recul historique, chaque révolution donne le sentiment d'avoir obéi à une impérieuse nécessité, à l'instant de son déclenchement, elle se déploie toujours sous le signe de l'événement absolu, c'est-à-dire de l'imprévisible à l'état pur. Une heure auparavant, les mots qu'elle a libérés semblaient encore imprononçables, le courage qu'elle déchaîne inconcevable. Tant et si bien que le vrai problème, pour qui s'intéresse à un tel basculement, relève moins du pourquoi que du comment. L'essentiel n'est pas d'énumérer les nombreuses causes objectives, économiques, sociales, politiques, qui auraient rendu la révolution inéluctable, mais de saisir les quelques actions subjectives qui ont mis le feu aux poudres. Les femmes et les hommes d'avant-garde, ces héros anonymes dont le geste spontané prépare le terrain à l'insurrection, Kropotkin les nomme d'une très belle formule. Ce sont les sentinelles perdues qui engagent le combat bien avant que les masses soient assez excitées pour lever ouvertement le drapeau de l'insurrection. Au milieu des plaintes, des causeries, des discussions théoriques, un acte de révolte, individuel ou collectif, se produit, résumant les aspirations dominantes, écrit-il. En Tunisie, la sentinelle perdue s'est appelée Mohamed Bouazizi. En s'immolant par le feu publiquement pour protester contre la corruption, la justice et l'humiliation, ce jeune vendeur ambulant a embrasé toute la Tunisie. Sans son geste de désespoir, qui sait ce qu'il serait advenu ? Avec la tranquille assurance que confèrent les jugements rétrospectifs, révolutionnaires professionnels et prophètes de l'après-coup tomberont d'accord pour dire que tout cela était écrit d'avance, que la situation sociale était mûre, que Ben Ali n'avait aucune chance d'en réchapper. Mais à mille lieues d'un tel déterminisme, d'autres se souviendront que tout a commencé par un acte incertain, fragile et solitaire, un cri individuel qui s'est mué en déclaration universelle.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, il y a pas mal de choses à répondre à ça, quand même. Alors déjà, sur la question de... En fait, je suis un peu mis mal à l'aise par cette question à la fin de ce jeune homme qui se serait immolé par le feu, du coup, qui serait du coup le déclencheur un peu de la révolution en Tunisie. Ça fait quand même un peu appel au martyr. Alors, je sais que c'est pas forcément ce qui était entendu par la personne qui a écrit ce texte, mais voilà, c'est il y a quand même aussi voilà, c'était juste cette partie-là qui me mettait un petit peu mal à l'aise. Après, sur le fond, c'est aussi la question de, au fond, est-ce que ça se prépare une révolution ou est-ce que c'est que de la spontanéité un peu au hasard ? Ouais, les deux, en fait. Les deux, c'est pour ça que je parlais beaucoup d'érosion avant, mais il y a de la préparation, que ce soit de la préparation matérielle et logistique, comme de la préparation dans les esprits des gens, en fait. Effectivement... on n'est pas prêt aux mêmes choses que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, le quinquennat Macron a poussé les gens à être capables d'une radicalité qui est plus grande qu'avant, quand on était sous Hollande ou Sarkozy. Parce que, ben, effectivement, la violence de sa manière de gouverner est quand même assez importante, et donc il y a une réaction à ça. Maintenant... quand il s'agit de parler de ces quelques individus qui feraient basculer, du coup, de par leurs actes un peu fragiles, mais qui sont un peu les premiers, les éclaireurs, quoi. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait un côté un peu fascinant de se dire ces premières personnes-là avaient vu avant tout le monde qu'il fallait y aller, que c'était... Concrètement, c'est surtout en fait des gens qui n'ont pas d'autres moyens, qui sont souvent les plus marginalisés, qui sont souvent les même qui sont en dehors des organisations politiques traditionnelles, qui en sont rejetés parce que souvent trop radicales. Et ces personnes qui du coup se retrouvent à être peut-être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. En réalité, le reste du temps aujourd'hui, elles sont encore largement méprisées. Et c'est un truc qu'on doit vraiment remettre en cause dans le monde militant. Quand je vois dans certaines manifestations le service d'ordre de la CGT qui littéralement collabore avec la police pour faire arrêter des camarades, pour moi c'est scandaleux, ça ne devrait pas exister. Et ça fait que, en plus, les gens n'ont plus confiance dans ce genre d'organisation qui font ça, quoi.
Tu parlais au début de ta réponse de préparer la révolution. Lutter contre le nucléaire ou contre le dérèglement climatique, lutter pour les droits des personnes LGBTI+, venir en aide aux exilés ou affronter le fascisme et les fascistes. Tout ça, ça rentre dans une logique de concevoir une société transformée plus ou moins radicalement, plus ou moins en profondeur. Mais est-ce que ça contribue à déclencher ou à préparer cette révolution? Et si oui, en quoi?
Alors moi, je te répondrai que oui, parce que encore une fois, on crée des liens sociaux qui sont différents, qui sont basés non plus sur des rapports de compétition comme l'immense majorité des relations sociales qu'on a aujourd'hui dans le monde, quoi. Donc on crée de nouveaux types de relations sociales qui sont basées sur l'entraide, la solidarité, la coopération. Il y a une volonté souvent d'auto-formation quand on s'engage dans des groupes politiques, dans des organisations. On se forme, on apprend des choses, on se transforme dans notre compréhension du monde et des autres. Et voilà, on rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, mais oui, on participe d'ores et déjà à créer une contre-culture, même si elle est souterraine, qu'elle ne se voit pas forcément tout de suite. Elle fait son chemin de manière un peu rhizomatique d'individu à individu et ça se transmet. Ça se transmet, cette culture de la révolte qui va peut-être commencer par un petit truc, d'abord une petite manif, lire quelques articles un peu critiques du gouvernement, et puis à force, tu vas t'engager dans une organisation, tu vas peut-être rejoindre un syndicat, tu vas faire grève, et puis c'est là que tu vas comprendre que pour améliorer tes conditions de travail ou pour avoir un meilleur salaire, tu ne peux pas lutter tout seul, tu as besoin de t'organiser avec tes collègues et tes camarades. Et que tu peux même gagner des choses avec eux, quoi.
Là, tu parlais de construire des sociétés avec une organisation sociopolitique différente, mais aussi avec d'autres, une relation à l'humain et au vivant en général différente. Ça a pu prendre forme aujourd'hui au Rojava et aussi au Chiapas. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Ouais, alors bon, je suis pas un expert non plus de ces deux zones géographiques, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça fait partie des exemples les plus inspirants, je trouve, sur ce qu'on pourrait faire et étudier, en tout cas en tant que peut-être pas révolutionnaire, mais en tant que gauchistes radicaux, militants, voilà. Regardez ce qui se fait au Rojava. Donc, pour rappel, le Rojava, c'est un territoire dans le nord-est de la Syrie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est principalement habité par des Kurdes, mais il y a aussi différentes ethnies, hein, qui vivent là-bas, différentes religions qui vivent dans un modèle de société qui s'appelle le confédéralisme démocratique. Et en fait, l'État, tout simplement, n'existe pas. C'est au niveau de la commune, en fait, que le centre de gravité du pouvoir politique se trouve. Et chaque poste de pouvoir est séparé en deux, en fait, un homme, une femme, parce que c'est l'un des piliers de la révolution du Rojava. Ça a été une approche féministe, en fait, de la révolution, en plus de leur approche écologiste, qui est fondamentale dans leur projet de société. Et voilà, c'est vraiment à la fois inspirant, fascinant ce qu'ils font et ce qu'elles font aussi, parce que les femmes ont eu un rôle majeur à jouer dans cette révolution, notamment au combat face à Daesh, en fait, hein, parce que c'était sur des territoires quand même très en guerre, hein, tout simplement, face au terrorisme.
Et à l'armée syrienne.
Et à l'armée syrienne aussi. Donc ça a été quand même vachement compliqué, et c'est encore compliqué aujourd'hui, parce qu'ils subissent du coup l'impérialisme de la Turquie, qui est quand même assez fort, l'impérialisme, et même Ouais, le projet fasciste quasi-génocidaire pour les Kurdes d'Erdogan, quoi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour eux, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur la question de la confédération, qu'on se doit de créer du lien entre différents. Quand des territoires autonomes émergeront comme ça, on ne peut pas les laisser seuls. Il faut que le monde entier, dans, là où les gens sont pour ce genre d'expérimentation politique, qu'on les laisse pas seuls, quoi. Que ce soit au Rojava ou au Chiapas, qui, pour le coup, le Rojava, ça date de 2012-2011, si je ne dis pas de bêtises. Le Chiapas, ça se passe du coup au Mexique. Ça existe depuis 1994 et c'est pareil, un territoire autonome qui, pour le coup, a été pris par une insurrection armée, par une milice composée de révolutionnaires et de peuples autochtones, en fait, de la zone où ça se passe. Alors, je ne connais pas exactement la géographie du Mexique, mais voilà, je sais que ça s'appelle le Chiapas, cette région, cet état du Mexique. Et encore aujourd'hui, voilà, il y a de nouveaux territoires qui rejoignent de nouvelles communes qui rejoignent le territoire autonome que représente le Chiapas. Et là-bas aussi, il y a un mode d'organisation sociale qui est complètement différent, qui est basé sur l'autogestion, en fait, tout simplement.
Pour en revenir au Rojava, l'organisation politique, plutôt que d'être au niveau de l'État, en revient à une échelle plus petite
C'est
et
ça.
qui correspondrait plus aux besoins des êtres humains.
Ouais, alors est-ce que c'est une question de besoin des êtres humains de manière universelle? J'en suis pas sûr. Je ne sais pas si on peut parler de besoin universel sur ça. En fait, voilà, donc un des éléments importants donc pour les militants du Rojava et qui découle notamment des écrits du théoricien Abdullah Öcalan, j'espère que je le dis bien, qui justement, lui, en fait, valorise énormément la culture de la vie de village, en fait, qui l'oppose à la civilisation occidentale et en fait à la ville urbanisée qu'il considère comme, on va dire, c'est l'incarnation de l'État, en fait, la ville urbanisée, et qu'il a besoin de. Que, voilà, en fait, c'est au niveau de la vie de village que le centre de gravité de la décision politique se trouve, avec ben, chaque communauté religieuse qui va avoir des représentants. Qui se rassemblent pour traiter tous les problèmes liés à la religion. Il y a aussi, enfin voilà, ils ont des comités en fait d'autogestion de tous les champs de la vie. Et pour chaque poste à responsabilité, c'est un duo d'un homme et d'une femme systématiquement. Et oui, effectivement. Après, il y a vraiment ce côté local en termes du centre de gravité, mais ça ne doit pas vouloir dire que ces modèles-là qui seraient. On n'est pas dans l'anarchie hein, à Rojava, mais on s'en approche quand même pas mal. Faut pas croire pour autant que ce serait pas viable à grande échelle. Parce que c'est déjà à grande échelle ce qu'ils font. En réalité, c'est déjà à très grande échelle. Et on pourrait. Enfin, quand on voit ce dont ils sont capables, avec toute l'adversité qu'ils ont contre eux, et contre elle, si on voulait mettre en place un modèle, une organisation socio-économique, politique différente, qui serait plus émancipatrice, on pourrait. Qui serait basée peut-être sur quelque chose comme ça. Hein. Faudrait peut-être qu'on s'adapte, parce que je ne suis pas sûr que le modèle soit transposable immédiatement en Occident, parce que bah, y a une culture quand même différente au Moyen-Orient. Mais bon, on a besoin quand même de ce genre d'inspiration, parce que ça nous rappelle que en fait, il y a d'autres modes de vie possibles que le capitalisme, quoi. J'ai énormément de mal avec l'URSS, mais peut-être la seule, comment dire, le seul vrai point positif que pouvait avoir l'URSS, c'était de rappeler aux gens qu'un autre monde est possible.
Et je trouve effectivement que ces deux exemples-là sont assez inspirants et j'invite nos auditeurs et auditrices à se pencher un peu plus sur la question du Rojava et du Chiapas. Et d'ailleurs, par rapport au Chiapas, il y a une délégation qui projette de venir en Europe à l'automne 2021. Et je pense que ce sera aussi très enrichissant de façon mutuelle. Alors, je te propose qu'on passe à la dernière question.
Oui.
Peut-être l'une des plus délicates. Quel conseil ou quel message aimerais-tu donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'agir davantage?
Oh là là, quelle question. Ça dépend aussi. Si vous êtes quelqu'un qui jusque-là n'a jamais trop été engagé politiquement, ce que je vous conseille déjà, c'est d'essayer de regarder autour de vous, dans votre cercle social, est-ce qu'il y a des gens comme vous qui ont envie de s'engager, et puis de partir de ça, de voir ensemble quels sont les thèmes qui vous intéressent ensemble, quelles sont les problématiques sur lesquelles vous pourriez apporter quelque chose dès maintenant, et surtout que vous soyez du coup voilà un néo-militant ou au contraire que vous soyez habitué à manifester, à lutter, etc. Dans tous les cas, je pense qu'il faut juste qu'on garde en tête que la nature des relations qu'on a dans nos luttes et les pratiques qu'on choisit vont toujours déterminer là où on va arriver. Donc rappelez-vous de refuser toute organisation, de participer à toute organisation qui n'incarne pas les valeurs qu'elle prétend défendre.
Merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent te retrouver sur la librairie anarchiste en ligne anarchive.ist et sur ton compte Twitter anarchivistex. Merci encore.
Merci à toi.